la méditation de Sainte Élisabeth de la Trinité carmélite de Dijon, début du XXe siècle. Eh oui, petit enfant de mon âme et de mon cœur, en avant. Va, marche en Jésus, marche en Jésus-Christ. Cette voie large, il te la faut. Tu es une petite enfant. Tu n'es pas faite pour les sentiers étroits et dangereux. Alors, en Jésus-Christ, tu vas marcher, enraciné en lui, posé, édifié sur lui, bien au-dessus de ce qui se passe. Tu vas marcher là où tout est pur, là où tout est lumineux. Tu seras forte, affermie, édifiée sur lui, forte dans la foi. Tu n'agiras que sous la grande lumière de Dieu. Jamais d'après les impressions qui viennent de l'imagination. Sois forte dans la foi, cette foi qui croit que Jésus te porte et qu'il t'aime, qu'il veut t'aider lui-même, qu'il marche lui-même dans les luttes que tu as à soutenir. Crois à son amour, ne crois pas seulement à son amour, crois à son trop grand amour. Ton trop grand amour, comme le dit saint Paul. Nourris ton âme de pensées immensément grandes de la foi qui vont révéler à ton âme toute sa richesse et son accomplissement pour laquelle Dieu l'a créé. Si tu respires, si tu vis dans ces réalités vivantes, ton amour pour le Père ne sera pas une exaltation nerveuse, comme tu le crains. Elle sera vivante, véritable, si belle, si vraie. La vérité de l'amour, il m'a aimé, il se livre, c'est pour moi qu'il s'est livré. Voilà, petit enfant, ce que c'est que être vrai sur la terre. Et puis enfin, tu grandiras dans l'action de grâce. C'est le dernier mot du programme. C'est la conséquence de ta vie. Si tu marches enraciné, tu marches en Jésus-Christ, affermi dans ta foi, tu seras dans la gratitude, dans l'action de grâce, dans l'amour insurpassable de l'amour pour son Père, dans la dilection des enfants de Dieu. C'est pas toi qui es juste, mais Dieu est juste. C'est pas toi qui es bon, mais c'est Dieu seul qui est bon. Alors, c'est pas toi qui es la source de ta propre vie, c'est l'amour de Dieu qui s'est ouvert et qui a fait émaner ce que tu es. Et ta bonté, c'est Dieu en toi, c'est Dieu en dessous de toi. C'est Dieu irriguant continuellement ta sève, mais pas seulement dans un point très très fin, que tu as oublié, dont tu as oublié qu'il existait dans une profondeur de plus en plus cachée. Mais c'est une irrigation qui prend non seulement la sève, mais l'écorce et l'espace environnant jusque dans l'anastase. Si tu plonges tes racines dans la vérité, dans l'amour de Dieu, et encore mieux dans la bénédiction, alors tu seras conduit par Dieu, forcément, pour être déraciné et planté dans la terre promise, déraciné de la mer, planté dans la terre promise. C'est Jésus, la terre promise. Non seulement on vient de Dieu, mais il y a cette exigence, cette bénédiction qui fait que Dieu nous fait grandir, nous illumine, nous sanctifie, nous transfigure, comme un soleil, et nous emporte et nous plante de la mer jusqu'à la terre promise. La terre promise, c'est Jésus. C'est Jésus crucifié. Parce que de l'autre côté, Jésus, Dieu vient vers nous. Puis il nous parle, il dit, écoute maintenant, on voit, et écoute bien. Il faut non seulement être lumière et bonté, mais il faut être aussi bénédiction jusqu'à son accomplissement. Et l'accomplissement, c'est la terre promise. Il faut passer au-delà du Jourdain, les eaux qui descendent en bas, toutes les eaux de la terre, tous les instants présents, toutes les durées de la terre, descendent toutes en bas. C'est le Jourdain. Il faut passer à pied sec sur les 12 pierres et se laisser porter par Jésus dans le passage du chemin de croix. Enfin, c'est pas seulement le chemin de croix, c'est pas seulement la croix, c'est la terre promise. C'est tout un peuple qui doit rentrer dans la terre promise. Et la terre promise, bien sûr, c'est le corps de Jésus. Il faut être transplanté dans le soleil eucharistique. Passer du soleil originel au soleil eucharistique. C'est tout le peuple, des enfants bénis de Dieu qui passent. Cette transplantation fait que tu es porté par Dieu. En Jésus qui est envoyé par Dieu comme Dieu vivant. Et la rencontre de ces trois visages de lumière font que tu es adapté à la très sainte Trinité. Mais si tu plonges tes racines dans les choses du temps, si tu plonges tes racines dans des choses périssables, hein, c'est vrai, si c'est ça ta source, si c'est ça ta sève, si c'est ça ton origine, si c'est ça, ben tu vas te perdre et tu vas descendre dans les eaux du bas. C'est forcé, parce que l'alpha, c'est l'oméga, tu peux très bien, après avoir été créé, baptisé, vivre bien, être admirable, être un artiste extraordinaire, tout réussi, même la vie affective, tu sais ce que c'est que d'être amoureux, fidèle, etc. Tu sais ce que c'est que lutter pour... tu sais ce que c'est que la bonté, tu sais ce que c'est que... la sagesse, tu sais ce que c'est que l'altruisme, l'humanité, l'honnêteté, la loyauté, enfin les 88 vertus, quoi, l'amour. l'amour, tu sais tout ça, et tu vas vivre tout ça toute ta vie, avec le bien, d'accord, mais à la fin, parce que tes racines ne sont pas plongées dans les eaux profondes de l'Immaculée Conception, alors à la fin, tout le bien que tu auras fait n'aura servi à rien, sera perdu. Et la substance, le jugement, la nature de ton âme sera révélée à la, non seulement à toi, mais à la terre tout entière. Et alors on verra après ta mort, ou au moment de ta mort, ou à la fin de ta vie, que ton accomplissement est dans le mal, la perdition. Mais Dieu ne veut pas avoir le mal. Il ne regarde pas le mal. Il regarde le juste. Il regarde ta vie. Et c'est ta vie si tu es juste, si tu es dans la grâce. Et si tu es dans la santé, tu es juste parce que tu plonges tes racines dans le courant de l'Immaculée Conception. Notre vie, c'est une reprise en main. Comme dans dit l'Épître aux Galates, vous savez, il y a la foi, l'amour, la paix, la joie, l'allégresse de la vie, la fidélité, la bienveillance, la bonté, la constance. La foi profonde, la miséricorde et la maîtrise de soi. Eh bien, si tu ne prends pas à main ta propre vie, la dixième des qualités intérieures de ta vie dans l'Esprit Saint, si tu n'as pas la dixième, c'est que tu n'as pas les précédentes. Et que les précédentes qualités sont purement, éperdument, des pertes de toi-même, quoi. Une espèce de moi, finalement, je suis quand même. C'est extraordinaire cette vision de. Ou bien tu choisis la bénédiction. Et c'est Dieu qui dit du bien de toi parce que. Ou bien tu choisis la malédiction. Dans les deux cas, on passe le Jourdain. Dans les deux cas, on passe sur la terre promise. Mais dans un cas, on a gagné sa propre vie. On a été fidèle à soi-même, on a été fidèle. Oh oui. Parce que le oui de Dieu est plus nous-mêmes que nous-mêmes, beaucoup plus, sans aucune comparaison. Dieu est quand même en nous-mêmes, dans ce qu'il a construit spirituellement et de manière incarnée. C'est beaucoup plus qu'une imagination. Et nous, si on ne prend pas la bénédiction originelle et la bénédiction terminale dans le Christ, il n'y a pas l'accomplissement. Le fruit, l'accomplissement, personne ne peut le connaître. Et la seule chose dont on soit certain, c'est que le fruit de l'accomplissement de la fin, pour chacun d'entre nous, est semblable à notre racine. Où est-ce que j'ai plongé mes racines? Où est-ce que, si j'ai plongé mes racines dans le terreau de l'iniquité, de l'imaginaire, de l'immédiat, du terrestre, la perdition, eh bien, mon accomplissement, forcément, sera de même substance. Et la substance de l'imaginaire, la substance du temps, la substance des océans, la substance des eaux qui descendent d'en bas, c'est une mauvaise substance. Dieu nous a créés, et il nous a créés pour, par et à l'intérieur, avec la matière vivante de son sang. C'est-à-dire de l'incarnation de son amour éternel à créer avant la création du monde. On peut être admirable sur la terre, et puis à la fin, être précipité aux enfers. Le carême, c'est ça. C'est d'éviter d'être l'antichrist. L'antichrist, C'est quelqu'un d'admirable, très très sympathique. Très merveilleux. Il sort de chez nous. Le carême, c'est d'éviter à tout prix d'être l'antéchrist. C'est d'être nous-mêmes. Et pour ça, il faut se plonger. Je trouve ça, j'aime bien ce que dit Sainte Élisabeth de la Trinité. Se plonger. S'enraciner dans la vraie enracinement. Et le véritable enracinement de la terre promise, de la terre primordiale, de l'église primordiale, c'est l'Immaculée Conception. Alors les eaux, sœur abondante, me mettent à la bénédiction. Et elle met sous mes pieds, non seulement le ciel de cette bénédiction, mais aussi la terre du sang, du Christ, la terre promise. Et si je mets mes pas, et c'est les pas de Jésus qui me portent dans le chemin de croix de l'humanité tout entière, pour que mon pied ne heurte aucune pierre, à ce moment-là j'aboutis, et c'est normal, à la foi. L'objet de la foi, c'est pas la Bible, l'objet de la foi c'est Dieu à l'intérieur de lui-même. Le Christ me porte. L'amour, l'immense et mon grand amour du Christ, me porte là où il se perd éperdument lui-même, dans sa croix. Et dans sa croix, il se perd éperdument lui-même, à l'intérieur de l'éternité de Dieu. Et mon accomplissement, c'est Dieu lui-même. Je ne suis pas un antéchrist. Un antéchrist, sous ses pieds, la terre s'ouvre et il s'effondre sous le poids. Des petits cheveux de rien du tout dérisoires auxquels s'est accroché, en disant « je ne veux pas renoncer, je ne peux pas renoncer, je n'y arrive pas à renoncer au péché. » Mais la vie chrétienne n'est pas du tout une lutte contre le péché. C'est impossible pour l'homme, c'est possible que pour Dieu. Mais vivre de Dieu, ça c'est possible, parce que c'est Dieu qui nous prend. C'est bien de dire le psaume 90 au début de chaque journée. Dit quand même, de dire très profondément, pour retrouver nos racines dans la mémoire, dans nos vraies racines, dans le Verbe de Dieu, l'immensément grand amour qui se concentre en nous pour nous faire exister notre existence, cet immensément grand amour de Dieu qui fait ce que nous sommes. Retrouver l'Immaculée Conception. Le carême, c'est échapper à l'antéchrist. Nous ne sommes pas des antéchrists, nous sommes Jésus lui-même sur la terre. Nous sommes Jésus, c'est Jésus lui-même qui fait notre vie. Notre corps, petit à petit, disparaît. C'est les lois de la nature. Les cellules disparaissent, mais au fur et à mesure que la lumière de Jésus, lumière du immensément grand amour de la transformation, apparaissait le corps de Jésus, il prend place dans notre corps. Et on passe de notre vie psychique, qui est basée sur l'imagination, à la vie spirituelle, surnaturelle et divine. Et nous baignons à l'intérieur de Dieu. On est là sous l'abri du Très-Haut. On marche au bon bré. La toute-puissance de l'amour de Dieu nous obombre et nous enveloppe. Voilà comment on est lorsque notre âme s'épanouit et elle est tout à fait elle-même. Depuis le principe. Cette obombration que Marie a connue sous la supervenue du Saint-Esprit et lorsqu'elle a été assumée en Dieu, c'est cette même obombration qui est la nôtre. Pendant ces immenses moments d'enracinement dans la substance, dans l'existence, dans la participation à l'existence de Dieu, qui fait notre vie embryonnaire, notre conception. Notre conception est en infinité directe et sans voile, comme l'explique le pape Pie XII. Sans aucun voile. Ah, avec ce diaphane intérieur et cette bombration. La toute puissance de Dieu m'embombre pendant ces heures-là. Alors, comme je suis embombré, et je reste dans le refuge de cette embombration. Et si plus je suis dans la foi, plus je suis dans la lumière, plus je suis dans la vérité, plus je suis dans ma propre vie, plus je découvre que cette embombration dans laquelle je suis, de la toute puissance d'une immense et mon grand amour de Dieu, est en infinité, sans voile, avec la conception de la création, parce que je suis une créature, est en affinité avec la création parfaite, est en affinité avec Marie, est en affinité avec l'Immaculée Conception, cette découverte de Saint-Joseph dans sa vie embryonnaire, sous le dialogue avec l'ange, a été prodigieuse. Elle a permis de réagir de la reprise en main, la maîtrise de soi, de sa propre vie, à la propagation du péché originel. Et quand Marie est assumée, quand l'Immaculée Conception est assumée sous la supervenue du Saint-Esprit, embombrée par le Père, elle n'est plus dans la petite maison de Nazareth. Son esprit, toujours lié substantiellement à son corps, parce qu'elle est Immaculée Conception, est dans l'éternité. Et quand on dit qu'elle est mère de Dieu, si elle est Immaculée Conception, saint Thomas d'Aquin dit, c'est parce que elle va être la mère de Dieu, parce qu'elle est tout de suite la mère de Dieu, aussitôt embombrée, aussitôt établie comme mère de la conception, mère de Dieu. Alors, on voit Dieu le Père qui engendre, mais il engendre à travers elle. Et c'est à travers elle que Dieu apparaît dans son éternité avant d'apparaître à l'intérieur de sa création. C'est quand même extraordinaire de plonger ses racines dans l'Immaculée Conception. Parce qu'à ce moment-là, Dieu est pour nous un refuge. Et ce refuge, c'est un temple. Et ce temple, c'est nous. Et on est, il y a Dieu le Père, il y a l'époux, il y a le principe, il y a le Dieu éternel, le Dieu, l'immensément grand amour de Dieu qui est là. Et l'Immaculée Conception Marie, qui est notre racine, je plonge mes racines dans l'Immaculée, au moment où elle est au bon bré, je repose à l'ombre du puissant. Et je dis au Seigneur, voilà mon refuge. Ma vie. Ma paix. Et devant elle, derrière elle, en elle, c'est le Père. Devant elle, tout autour d'elle, c'est le Fils. Sorti d'elle, c'est le Fils. Alors, personne ne s'approche du Fils. On peut tuer le Christ, mais on ne peut pas s'approcher du Fils de Dieu. Si on plonge nos racines dans la sainteté qui est la nôtre, dès le départ, voilà le mystère de l'eau. À ce moment-là, on peut vivre notre vie, on peut naître à la vie de l'Église et rentrer dans le mystère de la foi. Et grandir, et grandir, et grandir, porter. Parce qu'on est porté par deux mains, notre origine et notre accomplissement. Et c'est ces deux mains qui s'associent à la multitude spirituelle de la création glorieuse qui nous porte comme ça. il n'y a jamais, à ce moment-là, il n'y a jamais cette lutte. Toujours désespéré, parce qu'elle est toujours engagée dans une bataille perdue contre le péché. Mais celui qui pense que c'est sa vision des choses qui fait sa vie, c'est sa mystique personnelle qui fait sa vie. C'est sa gentillesse presque ontologique qui fait sa vie et qui ne sait pas ce que c'est que la mémoire de Dieu. Comment saura-t-il ce que c'est que la mémoire eucharistique et la présence réelle? Comment saura-t-il rentrer dans la terre promise de l'Eucharistie pour nourrir les eaux et faire qu'elles se changent en vin? Dans le Christ Jésus notre Seigneur, c'est vrai. Parce que Christ Jésus, notre Seigneur, s'identifie, il se donne tout, et il nous porte, bien sûr, et il nous amène. Il nous met en dehors du péché, à supposer même qu'il y ait des séquelles du péché originel. Jésus fait disparaître tout ça. Bien sûr que ça peut arriver qu'on ait fait des fautes, qu'on ait fait des mensonges, des hypocrisies, des trahisons vis-à-vis de Dieu, c'est possible ça. Personne dit que c'est impossible. C'est un privilège de l'Immaculée Conception, ça. Mais on n'a jamais, jamais, dans l'immédiat et sans voile, été abandonné par l'Immaculé. On n'a jamais été abandonné par Jésus. Jamais. Et donc on peut s'y retrouver quand on veut, comme on veut. Et être porté au-dessus de tout ça. Dieu péché. Et embraser, transformer et retrouver sa propre réalisation. Vous voyez, par exemple, je pense à une chose du carême, c'est temps d'aller se confesser, c'est sûr. C'est dans la confession, on confesse que sans l'Immaculé, sans Jésus, sans le Dieu vivant, sans l'Esprit Saint, on n'est rien. On est perdu. On est. Dieu ne nous regarde plus puisque mais il nous voit celui qui est juste, celui qui est dans la grâce, celui qui est dans l'Immaculée Conception, celui qui est notre Immaculée Conception parce qu'il a permis à l'Immaculée Conception de visiter toute sa conception divine et terrestre des choses. Mais si c'est ma conception personnelle, si c'est mon intelligence personnelle, ce n'est plus la sagesse de l'Immaculée Conception. Elle me rappelle le Père Emmanuel. Il disait, il y a des gens à l'intérieur de l'Église, et ils disent, je reconnais que moi, personnellement, je n'y arrive pas. Et ils disent qu'ils sont des grands mystiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis toute leur vie dans la vie contemplative. Alors, c'est la vie contemplative. Non, ne dis pas la vie contemplative. La vie contemplative, est-ce que le Santissima Bambina, dans les larmes, par torrent, à l'intérieur d'elle-même, est-ce que c'est une vie contemplative? C'est une vie divine. C'est une présomption de dire, ah, voilà, nous rentrons dans la vie contemplative. Toute notre vie est une vie contemplative. Mais ça, si tu fais ça, tu finis par l'orgueil. C'est pas l'intelligence. Il pénètre toute seule en Dieu. C'est la pénitence C'est l'enfance. C'est la simplicité. Où est-ce que tu as vu un enfant de 5 ans dire « Oui, mon père, et bien ce qu'on fait, c'est à moi. » Et bien, « Oui, mon père, j'ai une vie contemplative depuis que je suis né. » C'est absurde. Il y a certaines personnes qui disent « Ben oui, le plus élevé, le plus digne de notre vie chrétienne, c'est cette vie contemplative. C'est vrai que ce n'est pas vrai. Parce que si tu n'es pas enraciné dans la mémoire du rien à partir duquel tu es, et que la vie divine qui est la tienne est présente à l'intérieur de Dieu, dans son créateur, en toi et en lui, en même temps dans la mémoire de Dieu, comment es-tu adapté à ce moment-là à celui qui dit « Prenez mon corps ». En rentrant dans ma mémoire, l'amour originel, c'est l'eau. L'espérance accomplie, terminale, se déployant dans la charité parfaite et éternelle, c'est le sang. Entre les deux, l'eau a changé en vin. Alors bien sûr, heureusement, Dieu est miséricordieux. C'est vrai, Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne, bien sûr Dieu pardonne. Dieu est clément, mais bien sûr Dieu est clément. Bon, on a perdu du temps. On a été contemplatif pendant... Allez, on va être généreux. On a été contemplatif pendant 99% du temps qu'on a passé sur la terre. Mais il y a eu 1%. Il y a eu 1% où on s'est laissé prendre. On s'est laissé prendre. Parce qu'on n'était pas irrigué de la vie divine de Dieu, la participation à la vie intérieure de Dieu. Grâce à l'Immaculée Conception, on plonge nos racines en elle. C'est la mère de Dieu. Et bien, cette minute de rien du tout, de turpitude, est une horreur. Elle fait horreur, cette minute. Mais elle fait horreur, pas seulement à ceux qui découvriraient quelle est cette turpitude, même si eux, ils font des monstruosités infiniment plus grandes de turpitude. C'est eux d'ailleurs les plus scandalisés, parce qu'ils s'attendent à ce que tu sois comme l'Immaculée Conception. Et dès qu'ils voient la moindre ombre d'une petite turpitude, ils en font des montagnes et des univers. Mais si jamais tu as une petite, elle est forcément beaucoup plus grande, immensément grande. La petite pointe dans un immense ballon bien gonflé d'épingle fait que tout le souffle que tu y as mis dedans, les millions et des millions des millions de mètres cubes de sainteté et de contemplative, sans disparaître jamais parce qu'il y a une petite pointe. Il y a eu le péché. Ah oui, tu as eu une turpitude. Ah d'accord, mais l'eau est changée en vin. Alors tu reviens, c'est ça le carême, tu reviens à tes racines. Tu laisses l'Immaculée Conception te reprendre dans sa grâce. Et puis l'eau peut être changée en vin parce que dans la vie divine de la terre, Jésus est venu, il a posé ses pieds sur la terre. Et chaque pas, c'est un sacrement. Tu peux recevoir la confession quand même. La confession te remet substantiellement dans la mémoire de Dieu. C'est pas ta vie contemplative qui dit je vais me retourner à Dieu, je vais faire 800 rosaires, 1000 ave, ça y est, j'ai gagné. Non, c'est pas ça, c'est le sacrement, c'est Jésus, personnellement, qui chaque pas. Et il y a la confession. Heureusement qu'il y a la confession. Je pense à un prêtre, tu le connais bien. Bon, bien sûr, et peut-être, c'est possible. Il y a des gens qui le disent, bon, j'en sais rien. Mais... Bah, il y a eu des turpitudes que, paraît-il, sont pas bien. s'est posé, moi, dans ce cas-là. Comme disait le Père Mollet, je fais bien pire que ça, tout de même. Voilà, mais je sais que, je connais même la personne, il s'agit d'un prêtre que je connais, son évêque est venu. Il est venu pendant 10 jours avant sa mort. Et puis, au bout de plusieurs visites, ce prêtre a fait une confession. C'était pas facile parce que... Mais il l'a fait. Il a reçu le sang de Jésus. Il a reçu l'absolution, l'immaculée conception. Il a retrouvé la grâce. Il faut mettre ses pas dans les pas de Jésus. C'est pas la force de ton bras que tu trouves la maîtrise du ciel éternel. Et ce prêtre s'est confessé. Et l'évêque, il est revenu à son agonie. Il lui a donné l'extrême onction. Mais pour celui qui n'a pas la foi, non, il a fait des turpitudes. Donc, il doit être condamné au ciel et sur la terre. Il est condamné. Et on va bien étaler ça. C'est pour ça, personnellement, je ne suis pas pour. Quand Dieu voit l'iniquité, il ne regarde pas la perdition. Il regarde le juste. Il pose son regard sur notre cœur. Et il voit le juste. C'est ceux qui sont justes qui voient. Ils ne voient pas ce que l'Antichrist, qui pense lui n'avoir aucune turpitude, pas la moindre, alors qu'il est la plus énorme qui puisse exister, puisque c'est le point d'orgueil. Et bien quelqu'un qui a eu l'humilité de passer par la confession, l'absolution, qui a demandé pardon, il a fait quelque chose de plus grand que tous les péchés du monde. C'est pas lui qui l'a fait. Il a célébré quelques conceptions, se perdre. Alors se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance. Et il s'est laissé pardonner. Et si jamais ce prêtre-là s'était relevé, comme mon arrière-grand-mère qui, après avoir reçu la confession et l'extrême onction, dans l'heure qui a suivi, s'est relevée. Elle a vécu 5 ans de plus, puis après la fois suivante, 7 ans de plus. 4 fois comme ça. Bon, et bien si ce prêtre se relevait, c'est sûr. Qu'il ne retournerait pas à leur péché. Et il ferait à partir de ce jour-là son carême. Dès lors qu'il a fait sa confession, il vit son carême, c'est-à-dire qu'il est porté sur les mains angéliques et son pied ne heurte plus jamais aucune pierre. Ouais. Donc il ne faut pas juger. Le temps de pénitence, le temps de carême, est un temps où le jugement disparaît. La condamnation disparaît. Je reçois Jésus comme Dieu vivant et je ne me mets pas dans ses pas. Et la grâce va se muer comme ça en accomplissement. Je vis pas seulement de la foi dans mes racines. Je vis aussi de l'espérance dans son éclatement final. Je vis dans la charité. Et bien ça, c'est possible pour Dieu. Mais, c'est vrai, il faut avoir ce minimum d'humilité. De dire, c'est pas moi qui vais me remettre dans la grâce. C'est pas ma gentillesse native qui me met dans les bras de Dieu. Non. Tu ne mettais pas dans Jésus. Pas à pas te porte dans ta croix et transformation d'amour immensément grande, puisque ta croix, tu prends pas, il ne s'agit pas de prendre la croix de quelqu'un d'autre. Non, non, il prend ta croix. Et toi, il ne te demande pas de prendre la croix de quelqu'un d'autre, non. Mais il prend ta croix. Et par cette transformation de l'eau en vin, puis de l'eau dans le sang précieux, dans la terre promise, il transforme ta croix en croix glorieuse qui est la sienne, dans toute son intégralité, dans toute sa force, dans toute sa profondeur, dans tout son rayonnement, dans toute sa fécondité, dans le temps et dans l'éternité. Catholiques, pour nous les chrétiens, pour nous les membres vivants de Jésus vivant dans la vie apostolique, dans la succession des apôtres, dans l'Immaculée Conception, pour bref, dans les trois blancheurs, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'humilité. Accepter que c'est les sacrements qui font toute ma vie dans leur déploiement vers la fin. C'est pas nous. C'est pas notre justice terrestre, humaine, imaginaire. Extraordinaire, toute ma vie, personne ne me condamne. Tout le monde me voit comme... Voilà, tout le monde m'écoute, tout le monde me respecte, tout le monde... Même s'il ne me respecte pas, c'est pas grave, mais enfin au moins. Je témoigne quand même que tout le monde peut témoigner que je suis sincère, que je suis... On ne dit pas que je suis merveille, mais tout le monde dit, ben voilà, voilà quelqu'un qui est bon, si tout le monde était comme lui, il n'y aurait plus jamais l'ombre d'une guerre sur la terre. Si tout le monde était comme moi, non, non, si tu as l'humilité, tu vis des sacrements. Il y a Dieu seul, c'est Dieu seul qui rend possible que ta vie est une vie humaine. Que ta vie soit une vie humaine dans la vie divine elle-même, et que la vie divine elle-même embrasse ta vie humaine comme étant une vie divine, parce que Dieu t'a créé à partir de Dieu pour être en Dieu, comme Dieu, engendré de Dieu. Les sacrements. On va le savoir de plus en plus, ça, vous savez. Que l'humilité va se mesurer au sacrement. Le baptême. La confession. L'impulsion irrésistible du Saint-Esprit, la supervenue en l'Immaculée Conception réengendrante. Le mariage, la sponsalité de l'un. Le sacerdoce. Le mariage victimal éternel d'amour. Tous les sacrements, la confession. La confession, c'est de pouvoir accepter ce que Dieu me donne. Parce que bien sûr, je ne suis pas parfait, mais dans ce que je reçois dans la confession, je peux sortir de la confession en disant « je suis l'Immaculée Conception ». Parce que la confession va jusqu'à la racine de l'existence, et je peux dire « je suis ». Et l'Immaculée Conception, c'est l'absolution à l'intérieur de Dieu. Je peux dire « je suis l'Immaculée Conception ». Je retrouve immédiatement mes racines. Voilà ce que Jésus a institué pour faire le corps mystique de l'Église. Il faut mettre nos pas dans les pas de Jésus.